Saint Isaac Jogues est né le 10 janvier 1607 en France, à Orléans. Il sera baptisé du nom d'Isaac, car Dieu le prédestinait, comme Isaac, à être sacrifié pour la conversion des Indiens. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est en donnant sa vie comme Jésus que l'on sauve les âmes comme Jésus. À 10 ans, il entre chez les jésuites. Il travaille beaucoup, il est le premier de la classe. Souvent, les plus paresseux, les derniers de classe, sont les moins vertueux. Et à l'inverse, ceux qui travaillent le plus sont les plus courageux aussi pour se sanctifier. Sa plus grande joie à l'école était non pas d'être le premier, mais de porter les autres à la vertu. Jusqu'à 17 ans, il va garder une grande pureté. Grâce à sa dévotion à la Sainte Vierge et à ses communions, ses confessions fréquentes, qui sont les trois grands soutiens de la jeunesse. À 17 ans, il part chez les jésuites, loin de sa famille, à Rouen, et ses parents acceptèrent de faire le sacrifice d'Abraham, de donner à Dieu leur fils unique. Il aura comme professeur un prêtre qu'il retrouvera au Canada, Louis l'Allemand. Il a été très frappé en lisant la vie des saints jésuites, car la sainteté entraîne. Il a été très frappé par les missionnaires d'Éthiopie, puis par les missionnaires martyrs du Japon. Il désire être missionnaire et martyr, comme le père Spinola, mort martyr en 1622 avec 30 compagnons brûlés par les Japonais. En 1629, il fait la connaissance du père de Brébeuf, qui a été chassé du Canada par les Anglais. Mais les difficultés de l'apostolat et des missions ne font que attiser en lui le désir d'être missionnaire et d'être martyr. Puisqu'on chasse les missionnaires, il faut les remplacer. En attendant, il ne perd pas son temps. Il se fait professeur et fait le catéchisme à tous les enfants qu'il rencontre. À 23 ans, le 10 février, il est ordonné prêtre et le lendemain, il dit sa première messe. Il reçoit sa nomination pour le Canada. Ce fut un grand sacrifice pour les parents, mais ils acceptèrent, préférant la volonté de Dieu à la leur. Après 2 mois de retraite, le 8 avril, c'est le départ. Il partira pas seul, mais avec quelques prêtres et quelques frères. Le Canada sera bientôt rendu aux Français et l'évangélisation sera plus facile car les Anglais étaient protestants. Le voyage va être long, non pas 2 heures ni 2 jours, mais 2 mois. Pendant la traversée, Isaac ne perd pas son temps. Il écrira aussi cette belle lettre à ses parents, dont voici un extrait. Maman, je suis loin de toi. Et tous les jours, je serai près de toi par le saint sacrifice de la messe. Nous serons ensemble sur l'autel. Je m'offrirai avec toi, puisque ton sacrifice a été bien grand aussi. Mais Dieu bénira notre sacrifice, pour nous, pour nos familles et pour beaucoup d'âmes. Courage, le ciel est au bout. D'abord, Isaac va apprendre la langue des Hurons. Ce sont des Indiens que les Canadiens avaient commencé d'évangéliser, avec bien de la peine, c'est vrai. Isaac va partir pour Ossossané. Il y aura 20 jours de pirogue, 20 jours pénibles, car on est entassé dans des pirogues très étroites. Il faut faire attention de ne pas apporter de l'eau, du sable dans les pirogues, ni de contrarier les peaux-rouges qui sont très susceptibles. Il faut accepter de manger ce qu'ils nous donnent, même si c'est sale et pas bon ou pas cuit. Il ne faut pas leur poser des questions. Il faut les aider le plus qu'on peut, ne pas les critiquer, etc. Sur ce frêle esquif, cette pirogue qui tanguait, Isaac n'osait même pas bouger un muscle, de peur de faire renverser l'embarcation. Mais par sa saviabilité, sa patience surtout à supporter toutes les mimiques de ces peaux-rouges qui étaient des vrais sauvages, car la civilisation vient du christianisme. Ces gens-là n'avaient aucune éducation chrétienne. Ils ne savaient pas ne pas mentir, ne pas tromper les autres. Par sa patience et par sa rapidité à rendre service, on va le surnommer Ondesonk, c'est-à-dire oiseau de proie. Après une semaine de navigation bien pénible, il y avait des chutes dans la rivière et il fallait donc porter tous les bagages et les pirogues y compris. Ce fut très pénible et Isaac dut même porter un enfant qui était malade, Jean Amiot. Ils arrivent enfin le 11 septembre. Ils étaient cinq, Jean de Brébeuf, Le Mercier, Garnier, Chastelain et lui-même. Ils dédièrent leur apostolat à Saint Joseph. Saint Joseph qui sera très vénéré au Canada encore aujourd'hui. Ils commencèrent à construire, bien sûr, une chapelle toute petite, 5 mètres sur 4, mais qui intrigua beaucoup les sauvages, car ils n'avaient jamais vu de statues et de si belles choses. Ces Indiens étaient vraiment des barbares, toujours prêts à voler, mentir, tromper, même à tuer. Ils étaient intrigués par le tic-tac de l'horloge des jésuites. Ils pensaient qu'il y avait un esprit enfermé dedans, un bon ou un mauvais, allez savoir. La première fois que Isaac Jogues entra dans une tente d'Indien, il en eut la nausée, tant l'odeur était insupportable. On y faisait du feu, et puis tout le monde était entassé là-dedans. Il y avait de la viande qui traînait, les chiens qui cohabitaient et qui faisaient leurs besoins aussi dans la tente. Il n'y avait aucun ordre. Cette tente était remplie d'insectes, de sacs de maïs, de vêtements, de toutes sortes de choses. Mais il fallait supporter tout cela, se faire tout à tous, comme dit saint Paul, pour pouvoir gagner la confiance de ces sauvages, car ils avaient une âme à sauver. Isaac fut beaucoup encouragé par un missionnaire qui était arrivé 10 ans plus tôt, Jean de Brébeuf. Vous vous souvenez, celui qui avait été, qui avait, dont il avait fait connaissance en France. Voici ce qu'il lui disait. Mon ami, notre vie est suspendue à un fil. On nous recommande d'être toujours prêt à mourir. Eh bien, ici, c'est vraiment la vérité. Notre case est en chaume. Et elle peut brûler en un instant. De plus, la malice des peaux rouges est pour nous un sujet de crainte perpétuelle. Un mécontent peut vous brûler ou vous briser la tête avec son tomahawk dans un endroit isolé. Nous sommes vis-à-vis d'eux responsables. Nous sommes cause de la sécheresse. S'il y a une épidémie, nous sommes les responsables. Si nous ne pouvons faire pleuvoir, ils peuvent nous assassiner parce que nous envoyons des mauvais esprits. Bref, patience et soyez toujours prêts à mourir. Confiez-toi en Dieu. Quant au danger de l'âme, à parler franchement, il n'y en a aucun pour celui qui apporte au pays des Hurons la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Si vous craignez d'offenser Dieu et si vous l'aimez, vous supporterez tout. Et vous ne pécherez pas. Très beau conseil qu'Isaac suivit à la lettre et qui portèrent du fruit. Isaac Job commence à apprendre comme il faut la langue, à exercer sa patience. Je suis, disait-il, aussi joyeux de mourir ou de vivre. C'est comme Dieu voudra. Il commence à faire le catéchisme aux petits-enfants et quand des adultes ou des enfants étaient gravement malades et allaient mourir, il put les baptiser. Ce furent les premiers chrétiens d'Amérique. Un des grands obstacles à la conversion des Indiens, ce furent les sorciers. Les sorciers étaient des gens qui travaillaient avec le démon, carrément. Par exemple, un jour, Isaac rencontre un sorcier, Tonerau Nanon, un nom comme ça. Et le sorcier lui dit carrément, je ne suis pas comme les autres hommes, je suis un démon. Le sorcier était le porte-parole du diable. Mais pour les Hurons, il y avait des bons démons et des mauvais démons. Et les bons démons chassaient les mauvais démons. Mais les sorciers étaient d'une superstition incroyable. Ils faisaient croire aux gens qu'il fallait accomplir à la lettre tous les rêves qu'on avait, même si les choses étaient les plus farfelues qui existent. Si quelqu'un était malade, qu'il ne pouvait plus manger, qu'il maigrissait, il fallait rassembler le plus de gens possible, faire un grand festin, et tous les non-malades devaient manger jusqu'à vomir, remanger jusqu'à vomir, etc. Mais ce médicament-là n'a pas guéri beaucoup de malades. Alors il faisait des danses en l'honneur des démons. Il se défigurait, se déguisait, mettait des masques, faisait des danses qui déformaient leur corps, et avec des bâtons, tournait autour de la case ou de la hutte en tapant par terre, pour chasser les démons. Les sorciers habillaient 12 hommes avec de gros manteaux, et avec eux faisaient toutes sortes de danses bizarres, jusqu'à transpirer. Ils hurlaient, dansaient, criaient, transpiraient, puis versaient sur des pierres rougies au feu du tabac pour chasser le diable. Et ils disaient au diable, « Yo, c'est cognac. » Eux-mêmes, peut-être, ne savaient pas ce que voulaient dire ces mots. Puis ils faisaient toutes sortes de sabbats en l'honneur du démon. Les femmes chantaient et dansaient. Les hommes frappaient violemment sur des tambours d'écorce. On n'entendait jamais un si grand vacarme, des cris si rauques. En mesure, les danseurs prenaient des tisons enflammés et des cendres rouges qu'ils mettaient dans leurs mains, puis passaient leurs mains sur l'estomac de la malade qui hurlait tellement c'était bouillant. Et le malade s'agitait, secouait la tête sans arrêt. Ils rendaient les jours et les nuits effroyables par leurs cris insensés et par leur tam-tam diabolique. Les malades ou mouraient ou devenaient fous. Et bien des gens bien portants devenaient fous aussi. Isaac et les missionnaires disaient que ça ne servait à rien, que ça rendait encore les gens plus malades, mais on ne les écoutait pas. Ils étaient aveuglés par le démon. Isaac ne put baptiser que des enfants ou des gens qui étaient en grave danger de mort. On craignait les sorciers. Mais comme les sorciers n'arrivaient pas à enrayer les maladies, car il y avait une épidémie de choléra, en se tournant vers les missionnaires, et certains vieux indiens disaient qu'il valait mieux écouter les vieux européens, les robes noires, comme ils disaient, et ils promirent même de construire une maison en l'honneur du dieu des robes noires. Ce sera la première chapelle. Les robes noires, les prêtres, firent même le vœu de construire cette chapelle en l'honneur de Saint Joseph si la maladie s'en allait. Et l'épidémie, c'est ça, l'influenza, comme on l'appelait, cette maladie disparut. Les Indiens tinrent promesse, ils ne firent plus de danse aux démons, ils n'invoquaient plus les sorciers, on ne mangeait plus de la chair humaine, pour un temps. Mais impossible d'en baptiser un seul. On n'arrivait qu'à baptiser les mourants. Mais le démon n'avait pas cessé la bataille. Il suscita d'autres sorciers. Et on leur donna des pouvoirs quasi miraculeux. Il y avait un sorcier qui s'appelait Sao Sarino. Il avait le pouvoir de faire grogner son ventre, comme il voulait. Et beaucoup d'Indiens le prenaient pour quelqu'un de puissant. Ils avaient peur de recevoir un sort de lui. Ce sorcier disait qu'il fallait massacrer tous les missionnaires. C'était eux qui étaient des démons, qui lançaient des sorts et qui faisaient tomber malades les Indiens. Mais d'autres Indiens disaient que les missionnaires étaient des magiciens qui pouvaient guérir. D'ailleurs, les sorciers n'avaient jamais guéri personne. On était divisés. Puis, au printemps 1637, l'épidémie cessa. Isaac avait réussi à baptiser en tout 250 mourants. Personne n'avait survécu. Maintenant que le calme était revenu, les missionnaires profitèrent de leur temps libre pour apprendre la langue des Indiens, une langue assez difficile. Le plus difficile, c'était de trouver dans la langue indienne la traduction de mots dont il n'avait jamais entendu parler. Le Saint-Esprit, l'humilité, le pardon, la pureté, la consécration, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, le péché, toutes sortes de mots qu'il fallait inventer en mettant plusieurs mots l'un à la suite. Par exemple, l'Immaculée Conception, celle qui n'avait jamais eu la tache du mal, pour pouvoir leur faire les premiers catéchismes. L'apostolat était difficile. Isaac disait, je suis ici en pleine confusion. D'un côté, il me faut pousser les gens au travail pour qu'ils achèvent la petite chapelle. Et d'autre part, je dois visiter les malades, faire le catéchisme et surtout, surtout, lutter sans cesse contre les sorciers et leur parler du bon Dieu. Le 7 juin se passa un événement très important. Ce fut le premier baptême d'un adulte malade, mais qui survécut et qui resta chrétien. Suendanta, qui sera appelé plus simplement après le baptême Pierre. Ce fut le premier Huron qui survécut à son baptême. Il avait été catéchisé pendant 3 ans et demi. Les missionnaires se méfiaient des superstitions des Indiens et la sincérité de leur conversion. Mais il tint bon. Pierre resta un bon catholique, fit sa première communion et devint aussi missionnaire. C'est-à-dire qu'il essaya de parler lui aussi du bon Dieu aux autres Indiens. Il collaborait avec les missionnaires. Quelle surprise quand les Indiens entrèrent pour la première fois dans la chapelle. Ils n'avaient jamais vu de statue. Et ils étaient sûrs, persuadés, que ces statues étaient des jeteurs de sorts et qu'ils allaient tomber malades en les touchant ou même rien qu'en les regardant. Mais peu à peu, voyant que personne ne tombait malade, on osa s'en approcher et on était émerveilleux de pouvoir prier devant ces belles statues. On appela cette maison la résidence neuve de l'Immaculée Conception. Mais il fallait sans cesse surveiller les Indiens qui venaient prier à la chapelle, car sinon, ils auraient volé tout le mobilier. Mais en été, Dieu permit une nouvelle épreuve, car Dieu ne sauve les âmes que par la croix. Dieu permit que l'épidémie revînt. Et avec l'épidémie, les terreurs, l'hystérie, les diableries des sorciers des Indiens recommença. Il disait ceci, c'est la faute des robes noires qu'il y a ces maladies. De leurs images dans la maison du bon Dieu sortent les germes de la maladie. Leurs casseroles contiennent des poisons violents. Leurs morceaux d'étoffe noire servent à montrer de quel côté souffle le vent. C'est un signal pour les mauvais esprits pour qu'ils viennent. La boîte qui fait tic-tac, c'est un démon qui sonne l'heure, qui leur indique quand il faut agir. Et les robes noires interdisent l'entrée de leur cabane avant le lever du jour. C'est parce qu'ils préparent des charmes maléfiques pour la journée qui vient. Quand les robes noires prient ensemble, ce sont des incantations au diable. Et quand les robes noires se promènent en silence, en remuant les lèvres, ils invoquent les mauvais esprits. Et les portes se fermèrent. Impossible de pouvoir pénétrer dans les habitations des Indiens. L'apostolat devenait vraiment difficile. Le 4 août, le Conseil général décida même qu'il fallait envisager de faire mourir les robes noires puisqu'ils étaient responsables de l'épidémie. Dieu permit que l'épidémie reprît de plus belle. C'était en effet pour le moment le seul moyen de baptiser ces gens et de les faire entrer au ciel, baptiser ceux qui allaient mourir. Mais avec cela, les Indiens devinrent furieux contre les missionnaires. Il voulait les tuer, car encore une fois, il le tenait pour responsable de l'épidémie. Alors on tint conseil, on décida la mort des missionnaires, il fallait leur fendre le crâne. Mais Isaac Jogues et ses compagnons restèrent très calmes et confièrent la chose à Saint Joseph, leur grand saint patron. Et comme par miracle, Saint Joseph apaisa les choses. Mais les Indiens fuyaient les missionnaires. Ils avaient trop peur de tomber malades à cause d'eux. Avec l'hiver et l'inactivité de l'hiver, on fut forcé de les garder dans les tentes. Et alors les missionnaires intéressèrent beaucoup les Indiens parce qu'ils savaient toutes sortes d'histoires, l'histoire sainte, la vie des saints. Les Indiens aiment beaucoup les histoires, les contes, les récits merveilleux. On faisait des festins et pendant ces festins, les missionnaires profitaient sous forme de dialogue, d'interrogatoire, pour faire tout simplement du catéchisme, en posant des questions, en répondant, comme si de rien n'était. Ils avaient même inventé une chanson avec l'air des Indiens, avec les paroles du credo, le Je crois en Dieu. Ainsi, peu à peu, la foi pénétrait dans ces cœurs terriblement durs et pervers. En effet, ils avaient beaucoup de défauts. Ils étaient violents, tués pour un rien. Ils étaient vantards, orgueilleux, susceptibles et d'une immoralité très dégoûtante. Tout était permis ou presque. Même le meurtre était autorisé. La famille du mort avait le droit de demander une compensation en argent. Mais il n'y avait pas de police pour punir les meurtriers. Seul était interdit d'être tué. Des sorciers, à moins que ce sorcier soit maléfique. Mais on avait peur en général de toucher aux sorciers, craignant la vengeance des démons. À propos des démons, les Indiens les appelaient les hoquets. Chez nous, le hoquet, c'est autre chose. Eux, ils les appelaient les hoquets ou hoquis. Ils étaient dans un lac, dans un arbre, dans un animal. On pouvait les attacher dans une famille, dans un individu. Enfin, ils pouvaient être partout. Alors, pour ne pas avoir à souffrir d'eux, on les flattait, on leur offrait des présents, on faisait des danses telles que vous connaissez. Les sorciers s'efforçaient, ces sorciers, on pourrait dire, enfin, ils s'efforçaient d'être le plus laid possible, le plus affreux et repoussant possible. Il devait prendre l'image et l'attitude des démons pour chasser les démons ou pour les rendre propices avec leur façon de les imiter. Les Indiens n'acceptaient pas les sacrifices qu'impose la religion catholique, la pureté, la charité, la religion, honorer ses parents. Les vieux, quand ils étaient plus bons à rien, on les nourrissait plus puisqu'ils étaient inutiles. C'était un meurtre, en quelque sorte. Mais en 1638, ça fait 400 ans cette année, le premier adulte non malade indien, Chicoutemi, sera baptisé sous le nom de Joseph, le grand patron du Canada. Et au mois de mars, toute sa famille va se convertir aussi, la femme et ses enfants vont devenir chrétiens. Ce fut le début de la conversion. Mais à petite dose des Indiens du Canada. Isaac Jogues et ses compagnons choisirent comme habitation le village le plus hostile aux catholiques, Tenanstaiyaye, en pensant qu'ils avaient encore plus besoin de leur présence que les autres. On leur donna une vieille cabane où la pluie et le vent pouvaient pénétrer de tous côtés, et ils y dirent la première messe. Dans cet endroit pauvre comme la grotte de Bethléem, le 25 juin 1638. C'est alors qu'éclata une fois de plus la guerre entre les Hurons et les Iroquois. Quand les Indiens faisaient des prisonniers, ils étaient menés de village en village et torturés dans chaque village. Quand les Iroquois prisonniers étaient amenés dans le village d'Isaac, ils réussissaient en cachette à les baptiser en leur apprenant les bases de la religion chrétienne, et en général, ces prisonniers acceptaient d'être baptisés. Les tortures étaient terribles. On les brûlait à petit feu, on les découpait petit morceau par petit morceau jusqu'à ce qu'ils meurent. Peut-être voulez-vous savoir quel était le programme des journées d'Isaac Jogues dans ce village indien. Lever à 4 heures du matin. Méditation, messe, jusqu'à 8 heures, soit 4 heures de prière. Ensuite, on ouvrait la porte des cases. Les Indiens pouvaient venir, les interroger, leur parler ou venir prier à la chapelle. Les pères visitaient les malades, tandis qu'un père restait toujours là pour enseigner le catéchisme aux enfants. À 2 heures, c'était l'heure du dîner. Ensuite, on lisait un chapitre de la Bible pour que les Indiens puissent connaître peu à peu la religion. À 5 heures, on fermait les portes. Et ensuite, on priait, on étudiait la langue, on soupait, on disait le chapelet, on faisait le lecteur spirituel, et à 9 heures, coucher. Ça faisait 3 ans qu'Isaac Jogues avait ce programme, avec bien peu de résultats. Les Indiens resteraient très cruels, vicieux, bien que par certains moments doux et intelligents. Isaac désirait le martyre. Il voulait sauver ses âmes. Il se disait que par la parole, il n'y arrivait pas. Peut-être que par son sang, il mériterait leur conversion. Mais la maladie reprit, les épidémies revinrent et les persécutions avec. On disait partout qu'il fallait avoir aucun contact avec les robes noires, car c'était eux qui portaient la maladie. Mais Dieu permit qu'un grand chef indien, Wakiati, se convertit, fut baptisé avec une grande partie de sa famille. Il fit même la promesse de ne plus fumer depuis qu'il serait chrétien. Pour un Indien, ne plus fumer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme pour nous, ne plus manger de chocolat. Le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, tout le monde vint à la messe au village de Ossassané et il y eut pas mal de communions. Par contre, dans le village de Skanokwanerat, les gens étaient de vrais démons. Alors les pères consacrèrent ce village à Saint-Michel, celui qui doit terrasser les démons. Quelque temps après, ils pouvaient baptiser un Indien, Totiri, sous le nom d'Étienne. Puis le 1er janvier, 4 chefs de famille furent baptisés. Après cela, on découvrit qu'il y avait encore d'autres villages plus loin. 32 villages avec 12 000 hurons. Ils partirent pour s'y installer et ils tâchèrent d'y construire une petite forteresse, une petite communauté chrétienne qu'on appellerait Sainte Marie. De Sainte Marie devaient sortir et rayonner les missionnaires dans tous les villages d'alentour. C'était le mois de Saint-Joseph, mars 1639. Mais une nouvelle maladie arriva, la petite vérole, qui donnait des boutons aux malades qui mouraient dans d'atroces souffrances. Alors les Indiens déclarèrent que quiconque voudrait mettre à mort les robes noires ne serait pas puni, mais récompensé. Imaginez la peur qu'eurent les missionnaires. Non, ils n'eurent pas peur. Ils étaient prêts à mourir pour le bon Dieu. Alors comme les missionnaires étaient persécutés, ils se firent nomades. Ils ne faisaient que marcher de village en village pour baptiser tous ceux qui étaient malades mourants. Ils dormaient dehors et l'hiver canadien est terrible. Ils s'enroulaient autour de peaux de bêtes, de couvertures, dans la neige. Quel courage! À moitié fiévreux, malades, épuisés, à moitié morts de froid, ils continuaient pour l'amour de Jésus. Par exemple, une nuit à 3 heures du matin, voilà qu'on vient les réveiller. Au milieu de la neige très haute, pour quelqu'un qui était en train de mourir. Les missionnaires partirent et firent dans la haute neige 55 kilomètres sans s'arrêter jusqu'au village du malade où ils purent le baptiser avant qu'il meure. Leur fatigue, ils ne la regrettaient pas, car grâce à cela, une âme de plus était entrée au ciel. Dans certains villages, on les recevait quand même. Mais parfois, ils étaient surpris par des bandes de fous furieux qui voulaient mettre le feu à leur tente, ou leur fracasser le crâne, ou faire souffrir toutes sortes de mauvaises choses. Mais grâce aux Indiens qui étaient déjà convertis, ils pouvaient quand même pénétrer dans certaines familles. Un des Indiens, Pétain, dit un jour à ses autres amis qui se méfiaient des robes noires, ce que les robes noires viennent annoncer est de la plus haute importance. Mais vous, vous êtes obtus, bornés, vous fermez vos oreilles à ces nouvelles. Vos pensées ne vont pas plus loin que celles de la vie actuelle. Tandis que nous, croyants, nous plaçons notre espérance en une éternité heureuse pour ceux qui se repentent. Hugues, c'était un vrai miracle que les missionnaires, après une année de cette vie, soient encore vivants. Malgré l'hiver terrible, la petite vérole, les maladies, les persécutions, ils étaient toujours en vie. C'est à ce moment, en 1640, qu'arriva la mort du premier martyr, l'Indien qui s'était converti, le premier, Joseph Chewan-Tenwa, dont on a parlé tout à l'heure. Il fut massacré dans la forêt. Ce fut une terrible épreuve pour Isaac Jogues et ses compagnons, car ce martyr fit que la plupart des Indiens qui s'étaient convertis prirent peur et abandonnèrent les missionnaires et la religion catholique. Mais les missionnaires ne baissaient pas les bras. Ils allaient toujours en avant, jamais en reculant. Ils commencèrent à bâtir à Sainte-Marie une case, une petite case, qu'ils osaient nommer hôpital. Bref, il faut passer sur pas mal de détails. Après 6 ans passés au Canada, la peau d'Isaac Jogues était tannée, brune. Ses muscles étaient devenus durs comme du fer. Il pouvait digérer n'importe quelle nourriture, supporter plusieurs jours sans manger. Et surtout, il n'avait plus peur de rien. Il s'était rendu compte qu'il aurait pu mourir 1 000 fois de maladies, d'attaques, de meurtres, du feu, et que chaque fois Dieu l'avait protégé. Alors il avait compris que le bon Dieu nous protège et qu'il ne permet pas que nous mourions avant le jour qu'il a déjà fixé, si nous-mêmes nous faisons ce que nous pouvons. Parfois, le missionnaire avait des surprises qui le faisaient bien sourire après ma mort et ensuite qui l'attristaient. Un jour, il trouva 2 000 Indiens rassemblés qui poussaient des cris insupportables. 2 000 pleureurs. C'était la réunion annuelle des Indiens qui pleuraient et qui priaient pour leur mort. Plus on pleurait fort, plus c'était profitable pour les Indiens qui étaient morts. Imaginez le vacarme, 2 000 pleureurs. Ça nous fait penser à cette histoire d'une maman qui avait perdu son enfant et qui pleurait tous les jours de l'avoir perdu. Et cet enfant lui apparut une nuit, tout trempé, tout triste, tout appesanti par l'eau qui l'imprégnait de partout, et qui dit à sa maman, avec tes pleurs, tu m'empêches de monter au ciel. Prie pour moi, offre des messes, tes pleurs ne servent à rien, et pense que je suis sauvé, je suis sur la route du ciel. Les Indiens n'avaient pas encore compris. Le sang de Joseph, le martyr indien, commençait à faire fleurir de nouvelles conversions. L'une d'elles, ce fut la conversion du grand chef Atsitsari, un chef très courageux, très réputé, dont tout le monde avait peur tant il était fort à la guerre. Il se convertit en 1642 et prit le nom d'Eustache. Et voilà qu'il partit immédiatement faire la guerre contre les Iroquois qui voulaient envahir son pays. Et voilà le beau discours qu'il tint à ses guerriers avant de partir. Nous déclarons, nous les chrétiens, ne former désormais qu'un seul corps, un seul esprit, puisque nous servons tous le même maître. Quand l'un de nous passera dans un village où habite un chrétien, c'est chez lui qu'il ira loger. Quand l'un de nous sera dans la tristesse, c'est auprès des autres chrétiens qu'il ira chercher réconfort. Ne révélons pas nos péchés aux infidèles, mais montrons leur bien par notre amitié réciproque que le nom de chrétien est un lien plus fort que les liens du sang. Faisons savoir à nos parents, qui n'ont pas la même croyance que nous, que nous ne souhaitons pas voir nos os mélangés aux leurs même après notre mort, puisque nos âmes seront éternellement séparées et que notre affection ne continuera pas plus loin que cette vie. À ce jour, Isaac avait réussi à baptiser 120 hurons. C'était le début prometteur d'une église canadienne. Et c'est cette année-là, 42, qu'il sentit en lui la vocation du martyr que Dieu lui inspirait. « Mon Dieu, si c'est votre volonté, dit-il la tête prosternée à terre devant l'autel du Très-Saint-Sacrement, si c'est votre volonté, je m'offre corps et âme, esprit et volonté, pour que vous soyez connus et aimés par ces Indiens, même s'il faut mourir pour qu'ils aient la vie éternelle. » La guerre d'Iroquois faisait rage. Nous sommes maintenant en 1642, et le 13 juin, il faut absolument partir pour Québec pour chercher des renforts, des victuailles. On demande des volontaires car le trajet est très dangereux. Saint Isaac s'offre comme volontaire avec 25 autres Indiens, Hurons. Il y a Joseph Dion de Choron, qui dit avant de partir, « Mes frères, mettons-nous à genoux et offrons-nous à Dieu pour la vie et pour la mort. Répétez tous mes paroles, afin que n'ayant qu'un seul cœur, nous n'ayons aussi qu'une seule langue et une seule prière. » On passa par trois rivières, et après bien des jours de voyage, on arrive à Québec sans encombre. Là, on prend avec le chargement un donné, comme on l'appelle, c'est-à-dire un laïc qui fait les trois vœux de religion pour quelques années pour servir les missionnaires. Ce donné s'appelait René Goupil. On prit aussi une des filles du martyr Joseph Ossossané, vous rappelez cet Indien qui avait été baptisé. Elle avait fait ses études chez les Ursulines. Et elle partit pour aller évangéliser ses frères et sœurs Hurons. Le 28 juillet, on réembarqua pour le retour. Le retour s'annonçait plus dangereux encore. On avait appris que les Iroquois étaient armés avec de bons fusils par les Hollandais. Les autres Indiens, comme les Hurons, n'avaient pas de fusils. Alors le grand chef Eustache, à Atsitsari, fit un discours remarquable. Il se dit prêt à accepter la mort s'il était capturé par les Iroquois. Il se promettait de leur dire que son âme était hors de leur atteinte et que malgré les tortures qu'on m'infligerait à mon corps, ma joie d'aller au ciel resterait profonde et mon âme jamais ne pourrait la tuer. Tous furent émus jusqu'aux larmes en entendant les paroles de cet homme si pieux, chrétien, courageux, et chef indien courageux. Après quelques jours de voyage seulement, voilà qu'ils furent attaqués d'abord par 30 Iroquois. Le grand chef Eustache cria, « Grand Dieu, de vous seul, j'attends le secours !» Saint Isaac Jogues donna sous condition l'absolution collective à tous les chrétiens de l'expédition. On entendait les balles et les flèches siffler de tous côtés. Mais la bataille bascula. 40 Iroquois arrivèrent et ils étaient bien supérieurs en nombre. Ils massacrèrent une partie de l'expédition. Guillaume Couture réussit à s'échapper. Il put même tuer un chef avec son fusil. Saint Isaac Jogues put s'échapper aussi et se cacher dans les fourrés. Mais voyant ses frères partir chez les Iroquois pour y être torturés, il se dit qu'en tant que prêtre, il n'avait pas le droit de les abandonner. Alors il appela les Iroquois. « Ouh, je suis là, n'oubliez pas !» Ils étaient stupéfaits de voir quelqu'un qui se rendait volontairement pour aller aux tortures. Puis on l'attacha. Arriva enfin Guillaume Couture, qui lui aussi ne voulait pas abandonner ses camarades. Mais comme il avait tué un chef avec son fusil, les Iroquois se précipitèrent sur lui, lui arrachant les ongles et lui mordant les doigts. Pendant 4 jours, ils vont être brutalisés, car le village des Iroquois était très loin. On leur donnait à peine à manger et à boire, et leurs plaies s'infectaient. Mais l'amour des Hurons pour leur père Isaac grandissait. Comment un homme avait-il pu se constituer prisonnier uniquement pour aider les autres en se livrant à la torture? Ceux qui n'étaient pas encore chrétiens eurent foi dans le christianisme et demandèrent le baptême. Puis ce fut l'arrivée dans le village iroquois. Avec des cris de joie et de fureur, on se précipita sur les prisonniers. On leur mordait les doigts, on leur arrachait les ongles, on leur tailladait la peau des jambes, des bras. Et ce qui était le plus douloureux, c'était ce qu'ils appelaient les caresses. On faisait deux rangées de soldats iroquois avec des bâtons, et les prisonniers devaient passer entre les deux rangées en se faisant frapper et fracasser le crâne et les os par les deux rangées de soldats fous furieux. Un Iroquois prit son couteau, le leva au-dessus de la tête d'Isaac et était prêt à frapper. Isaac le regardait calmement droit dans les yeux. Il avait fait son sacrifice à Dieu, il était prêt de mourir. L'Iroquois ne s'attendait pas à cela. Il baissa son arme et partit. On meurt quand Dieu le veut, pas avant. Alors un des chefs iroquois commanda à une esclave de couper le pouce d'Isaac Jog. Elle refusa. Mais si elle s'obstinait à refuser, c'est elle qu'on tuerait. Alors elle découpa le pouce d'Isaac. Isaac le ramassa. Et dans sa douleur, il ne se plaint pas. Il offrit ce sacrifice à Dieu. Il lança le pouce dans la forêt pour que personne ne le retrouve. Quand on cessait de torturer les prisonniers, c'était les enfants qui prenaient le relais. Ils s'amusaient à prendre des braises ou des charbons ardents dans le feu et de les jeter sur les missionnaires qui étaient attachés et qui ne pouvaient pas éteindre ces brûlures sur leurs mains ou sur leur visage. Après, c'était les moustiques, des nuées de moustiques qu'ils ne pouvaient pas chasser puisqu'ils avaient les mains liées. On ne leur donnait rien à manger, presque rien à boire. Oui, vraiment, quand on voit cette histoire, on a un peu honte de se plaindre pour un oui ou pour un non. Mangeons ce qu'on nous donne, faisons notre travail, acceptons les petits bobos de la vie et offrons-les à Dieu, en sachant qu'il y a des martyrs qui sont morts pour nous aussi et qui ont souffert bien plus, sans se plaindre. On arrivait bientôt à la fête du 15 août, l'Assomption. Les prisonniers étaient traînés de village en village, et dans chaque village, il avait les caresses, ces deux rangées entre lesquelles ils étaient frappés à coups de bâton et à coups de griffes. Jog et ses compagnons ressentaient pourtant dans leur âme la paix, car ils se voyaient semblables à Jésus-Christ, qui s'était fait lépreux pour nous, ayant accepté toutes ses plaies, toutes ses blessures de la Passion. Et eux aussi, ils acceptaient ainsi de ressembler à Jésus, puisqu'ils étaient persécutés pour le nom de Jésus, parce qu'ils étaient catholiques. D'ailleurs, il semblait bien que le bon Dieu voulait encore augmenter leur souffrance, puisqu'il permit qu'il y eut à cette époque-là des pluies torrentielles et beaucoup de froid. Et les prisonniers, qui n'avaient pas de manteau, grelottaient et leur souffrance ne faisait qu'augmenter. Jog offrait tout cela pour que cela attire la conversion du Canada. Puis ce fut le tour d'Isaac Jog de subir les tortures, les ongles arrachés, la peau tailladée. Avec des tessons enflammés, on lui brûlait les flancs, la peau des bras et des jambes. Puis on le suspendit par les hauts des bras à une corde, laissant tout son corps pendre et tirer sur les bras. La souffrance après un quart d'heure était intolérable. Plus il demandait pitié, plus on resserrait les liens. Enfin, un Indien, qu'on verra plus tard, coupa la corde, car il avait eu pitié de lui. Quelques mois plus tard, Isaac rencontra cet Indien et le baptisera. Il fut un peu comme Simon Cyrène, qui aida Isaac dans sa passion. Après cela, Isaac Job racontera qu'il accepta toutes ses peines bien plus volontiers, car lui avait été suspendu par des cordes un quart d'heure, tandis que son maître et le nôtre, Jésus, a été suspendu à des clous, et pendant 3 heures. Puis les chefs décidèrent de brûler ce soir-là 2 prisonniers hurons. Ils n'étaient pas encore baptisés. Isaac put s'approcher d'eux, et avec les restes de la pluie qui suintait sur les feuilles des arbres, il put en recueillir assez pour les faire couler sur leur front et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le soir même, ils montaient au ciel. Vraiment, ils n'étaient pas venus pour rien se constituer prisonniers chez les Iroquois. L'un après l'autre, les prisonniers Hurons furent martyrisés. On les brûlait, on leur fracassait le crâne ou on les torturait jusqu'à la mort. Tous purent être soit baptisés, soit confessés par Isaac Job avant de mourir. Mais Isaac, on le garda vivant pour avoir un otage et pouvoir traiter ainsi, faire du chantage avec les ennemis jurés, les Français, les catholiques.
En 1516, il entre dans le couvent de Saint-Augustin à Salamanque. Au moment même où un autre religieux de Saint-Augustin, Luther, commençait à se révolter. Il était presque toujours en prière. Il aimait beaucoup Saint-Bernard. Il l'avait lu presque tous ses livres. Sa devise était celle-ci: un bon religieux doit prier en étudiant et étudier en priant. Toutes ses vertus avaient une base solide, son humilité. Il recherchait les travaux que les autres aimaient le moins, comme les nettoyages des cabinets, ou s'occuper de nettoyer les animaux, etc. Il ne dormait que 4 à 5 heures par nuit, pas plus. Son lit n'était qu'un peu de paille, et durant le carême, il enlevait la paille pour dormir sur les planches. Il fit ensuite ses premiers vœux. Et depuis lors, il s'occupait tellement des malades qu'il était plus souvent à l'infirmerie que dans sa cellule. Il avait un grand plaisir à leur donner à manger, à faire leur lit, à essuyer leur sueur, à nettoyer leur chambre et à rendre tous les services les plus humiliants, sachant que tout ce qu'on fait aux pauvres et aux malades, c'est à Jésus qu'on le fait. Quand il savait quand ses frères avaient besoin de quelque chose, avant même qu'ils le lui demandent, il s'offrait à eux avec une vitesse et une joie incroyables pour pouvoir les aider. Il disait ceci: l'infirmerie est comme le buisson de Moïse, où l'on trouve Dieu parmi les épines du travail, en servant et supportant les impatiences des infirmes, et où le cœur s'embrase des flammes de la charité par des actes d'humilité, de patience, de bonté, de mortification qu'on peut y pratiquer. Alors, quand les malades le voyaient entrer, ils regardaient sa visite comme celle d'un ange venu du ciel, qui venait adoucir leurs souffrances, calmer leur inquiétude, tempérer l'ardeur de leur fièvre, apaiser leur douleur, calmer leur cœur et les aider à offrir ce que la volonté de Dieu leur demandait comme croix. Enfin, il fut ordonné prêtre, c'était le jour de Noël. Il dit sa première messe en versant un torrent de larmes, en sachant que Dieu lui avait donné ce qu'il y a de plus grand sur la terre que Dieu peut faire à un homme: continuer ce que Jésus a commencé. Il devenait parfois, en célébrant la messe, tout lumineux. Parfois même, sa figure était tellement brillante qu'il éclairait tout le missel sans qu'on eût besoin de mettre la lumière à l'église. Depuis ce jour, il prit la résolution de ne jamais perdre une minute, jamais de choses inutiles. Il avait 5 endroits qu'il aimait le plus, et ces cinq endroits, il y vivait pour réparer les douleurs des cinq plaies de Jésus. Ce sont l'autel, le cœur de l'Église, sa cellule, la bibliothèque et l'infirmerie. Ces lieux, dit-il, sont ma patrie. Mon âme s'y repose. Il disait encore que les rues de la ville ne devaient point servir de promenade aux religieux, mais seulement de chemin de pèlerinage, qu'il ne fallait pas faire de visites de politesse ou de compliments, mais qu'il fallait seulement se rendre là où l'on pouvait faire du bien. Ensuite, il devint un professeur de théologie à Salamanque. Mais une de ses grandes épreuves fut qu'il avait peu de mémoire. Et Dieu permit cette épine, cette croix, pour lui permettre de gagner des mérites, car il devait travailler beaucoup plus pour retenir ce qui était nécessaire à enseigner. Mais il n'avait pas que la science. Il disait que quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui n'a pas de piété, c'est comme quelqu'un qui a une bonne arme, mais qui ne sait pas s'en servir, il peut faire beaucoup de mal. Un de ses talents que Dieu lui avait donné, c'était le talent des sermons, des prédicateurs. Il prêchait tellement bien que certains se demandaient s'il n'était pas Élie revenu sur la terre. Car vous savez qu'il est toujours vivant et qu'il reviendra prêcher à la fin des temps. Salamanque devint comme un immense monastère. Il y eut tant et tant de conversions et de saintes œuvres qui se produisaient dans cette ville que Salamanque était comme une grande ville religieuse. Tout le monde était embrasé du feu de la dévotion, de la charité, que l'on respirait plus que l'air de la pénitence, de la prière, de la charité, de la patience, du secours envers les pauvres et les pécheurs. Et il y eut beaucoup de vocations. Les noviciats étaient tellement pleins qu'il fallut envoyer les vocations dans d'autres villes, car ici il n'y avait plus de place. Même Charles Quint se rendit à Salamanque pour pouvoir entendre ce grand prédicateur. Et plus tard, il devint même son confesseur, et Charles Quint faisait à la lettre ce que Thomas lui demandait de faire. On lui demandait un jour, « Père Thomas, comment se fait-il que vous avez tant de succès dans les sermons ?»« Mon ami, c'est dans la prière que l'âme reçoit les lumières qui éclairent son esprit et les ardeurs qui réchauffent sa volonté. C'est la prière qui fabrique les flèches qui peuvent percer les cœurs les plus endurcis des pauvres pécheurs. L'étude seule ne sert à rien sans la prière et la vertu. » Souvent, Dieu lui donnait le don des extases pour montrer que la voie qu'il suivait était bonne et que donc on pouvait le suivre, l'imiter. En 1519, il fut élu prieur et ensuite supérieur des moines de Saint-Augustin. Mais il traitait ses frères non pas comme un bourreau, comme un tyran, mais comme un père envers ses enfants. Il commandait peu par des paroles, mais il montrait l'exemple pour stimuler à faire comme lui. Il y avait quatre points sur lesquels il était très, non pas sévère puisqu'il n'était pas dur, mais très exigeant. Il contrôlait souvent ces quatre points. Le premier, c'était les prières, les offices. Il disait ceci, « Dieu ne verse ses bénédictions sur un monastère ou sur une maison que dans la proportion de la piété avec laquelle on honore sa majesté. » S'il y a des problèmes dans les familles ou les familles religieuses, souvent cela vient compris mal en commun ou pas du tout. Le deuxième point, c'était la lecture. Est-ce que vous lisez? Il disait ceci. De même qu'un animal ne peut pas vivre si la chaleur qui est en lui ne se conserve, ainsi c'est la lecture ou la méditation qui donne des forces aux chrétiens pour faire avec joie tous les travaux du devoir d'État. Celui qui néglige la lecture est un dévot dans l'Église, distrait pendant la messe, léger en conversation, dissipé dans le catéchisme, chagrin et inquiet partout. Le travail lui est désagréable, l'obéissance lui déplaît, les ruses du démon le trompent, les tentations triomphent de lui. En un mot, c'est un aveugle qui conduit un aveugle, et il marche à reculons au lieu d'avancer. Faisons donc un effort pour les bonnes lectures. Le troisième point, c'est la charité fraternelle, l'union des cœurs, qui ne peut se conserver que par des sacrifices, savoir supporter et penser aux autres. Il disait ceci. Un chrétien qui a dans le cœur de l'amertume ou de la méchanceté est l'image d'un damné. Son corps ne sert plus à son âme que comme un enfer portatif, où son âme souffre déjà les ténèbres de la passion, du feu, de la colère, de la morsure de la haine, de la faim insatiable de la vengeance, et du ver dévorant et des inquiétudes de la mauvaise conscience. Enfin, le quatrième point sur lequel il était très strict, c'était la paresse. La paresse et l'oisiveté, dit-il, c'est le plus dangereux ennemi de la vertu. C'est la ruine de l'âme, la contagion des mœurs, l'écueil de la pureté, la source de tous les désordres. Vous connaissez le proverbe, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, sur ce point, il punissait. Quand il prenait un moine en train d'être oisif ou paresseux, la première fois, il le grondait charitablement. La deuxième fois, avec sévérité devant tout le monde. Une troisième fois, il était puni de la flagellation. Dieu récompense déjà sur la terre ceux qui vivent avec tant de sainteté et de générosité. Thomas obtenait presque tout ce qu'il voulait. Par exemple, un jour, Charles Quint avait condamné des hommes à mort parce qu'ils avaient manqué de déférence envers l'empereur. Personne ne pouvait faire changer d'avis l'empereur. Thomas s'y rendit et aussitôt l'empereur relâcha les prisonniers. Une autre fois, c'était une dame qui avait un fils tué par un assassin. Elle ne voulait pas lui pardonner. Thomas se rendit chez elle. Avant même qu'il parlât, elle se mit à genoux, demanda pardon à Dieu et accepta de faire une bonne confession. Oui, quand on est victorieux du démon en nous-mêmes, on peut être victorieux du démon autour de nous. Sinon, il faut commencer par soi-même. Dieu voulait que le bien se fasse aussi ailleurs. Alors Dieu permit que Thomas fut nommé à Valence. Et la première chose qu'il fit à Valence, ce fut de visiter les prisonniers, ces pauvres gens privés de leur liberté. Ensuite, il fit porter 4000 ducats à l'hôpital pour augmenter le bien-être des malades. Pour lui-même, il était très parcimonieux. Il ne dépensait presque rien. Il garda presque toute sa vie la même soutane. Il mangeait comme les paysans. Un jour, on lui avait servi un plat succulent. Il refusa de le manger, le fit vendre à d'autres personnes et distribua cet argent à des pauvres. Souvent même, il jeûnait au pain et à l'eau pour pouvoir donner plus aux pauvres. Je ne veux pas dépenser d'argent avec trop d'exagération, car un jour, Dieu me dira, rends-moi compte de ta gestion. Il visitait tout le monde. Il parcourait tout son diocèse pour pouvoir connaître toutes les misères et y porter remède. Quand il découvrait des vices ou des défauts chez les gens de son diocèse ou chez ses religieux, plutôt que d'utiliser la sévérité, la dureté, il employait le pardon et l'encouragement. Ainsi, ceux qui étaient méchants, au lieu de devenir hypocrites parce qu'ils étaient traités avec sévérité, devenaient pénitents et changeaient de vie. Si on est trop dur, on peut faire des autres des hypocrites ou des désespérés. Il faut être bon, et la bonté donne envie d'être bon. Dans un couvent, les religieux refusèrent d'y obéir et d'améliorer leur vie de piété. Alors Thomas leur dit, « Puisque vous ne voulez pas m'obéir, c'est Dieu qui sera votre juge. » Quelque temps plus tard, un de ces religieux fut condamné par la police à la prison après une mauvaise action, et tout le couvent dut payer une amende pour réparer cela. Alors les religieux vinrent demander à Thomas d'avoir voulu désobéir, d'avoir manqué de respect. Aussitôt Thomas leur pardonna. Il se rendit chez le pouvoir civil pour demander de lever cette peine. Mais les autorités politiques non seulement refusèrent de l'écouter, mais le menacèrent de lui prendre, spolier le couvent et tout l'argent qu'il possédait. Alors saint Thomas de Villeneuve répondit ces trois choses qui sont marquées en lettres d'or dans notre mémoire. Un évêque doit défendre les droits de ses religieux quand ses droits sont attaqués, de même qu'un soldat doit défendre les droits de son roi. Ensuite, si vous prenez le couvent et l'argent du couvent et tout l'argent que je possède, c'est pas moi que vous allez voler, mais les pauvres à qui cet argent ne pourra pas être donné. Enfin, si vous voulez mon sang et me tuer, vous pouvez très bien le faire. Ma vie ne m'appartient pas. Ce que je veux, moi, c'est le droit de l'Église. Et vous n'avez pas le droit de mettre en prison un religieux. C'est l'Église qui doit juger tout religieux. Le gouverneur fut très ému de cette fermeté et se convertit et se confessa même. Une autre fois, saint Thomas de Villeneuve dut prendre une décision qui allait contre l'empereur Charles Quint. On lui dit, « Attention, mon père, vous allez fâcher l'empereur si vous faites cela. » Et saint Thomas répondit, « Je préfère fâcher l'empereur que fâcher Dieu. Et dans ce cas, je ne peux pas faire autrement, donc je préfère déclencher les fous de l'empereur, quitte à en pâtir, plutôt que d'offenser le bon Dieu. »